Chers amis, bonjour. C'est un immense plaisir de vous avoir dans la présence du Seigneur. Ensemble, nous allons élever notre voix. Nous allons adorer notre Dieu. Nous allons glorifier notre Dieu.
Tout puissant,
Seigneur. Dans les moments d'épreuve, nous voulons compter en fait tes bénédictions, nous voulons toujours les regarder, Seigneur, et t'adorer.
Gloire à toi, Seigneur.
Esprit d'amour, et créons.
Est-ce qu'on peut prendre un temps ensemble où on peut prier, louer, adorer Dieu? Tous ensemble, enfants, grands, adultes, jeunes depuis plus longtemps que moi, ensemble, remercier Dieu. Parce qu'on est là, parce qu'on est ici, parce qu'on peut librement le louer, l'adorer. Amen. Alors tous ensemble, on élève nos voix. Seigneur, vraiment merci. Merci pour ces instants. Merci pour ta présence. Oui, merci pour le souffle de vie. Merci pour l'action de ton esprit dans nos vies. Merci parce que tu nous aimes. Merci parce que tu as donné ton Fils unique à la croix pour effacer notre dette, pour effacer nos péchés. Merci Seigneur mon Dieu parce que tu nous aimes, Seigneur. Amen. Est-ce que je peux avoir un tonnerre d'acclamation pour notre roi des rois, pour notre Seigneur des seigneurs? Est-ce que vous avez le cœur en fête? Est-ce qu'il y a la joie dans votre cœur d'être ici ce matin? Vous êtes sûr? Eh, là-bas, je sens que ça, il y a de la joie là. Est-ce que de ce côté, il y a de la joie? Ok, c'est une célébration assez spéciale ce matin. Et vraiment, je vous invite à prendre part, à ouvrir vos yeux, vos oreilles, à encourager. Et je vous laisse visionner une petite vidéo. Mesdemoiselles, messieurs, enfants, toute la famille de Christ, aujourd'hui, nous avons la joie de vivre notre première cérémonie des nouvelles générations. Et c'est un moment fort pour notre communauté et c'est pour ça que nous le vivons un dimanche matin tous ensemble. Alors nous voulons encourager et bénir les enfants, les préadolescents, les adolescents, les jeunes adultes. Nous voulons être là dans leur parcours de foi. Vous êtes d'accord avec ça? Alors permettez-moi de commencer par un verset, un passage de la Bible. Proverbe 22, verset 6 nous dit « Éduque l'enfant d'après la voie qu'il doit suivre, même quand il sera vieux, il ne s'en écartera pas. » Amen. Et cette cérémonie est essentielle, car elle marque des étapes spirituelles majeures de la jeunesse de notre Église. Et chaque passage dans un nouveau groupe d'âge est une occasion d'honorer leur croissance personnelle et spirituelle. Et en tant que communauté, nous tous, ensemble, nous avons cette responsabilité d'encourager leur évolution. Vous êtes d'accord avec ça? Vous êtes d'accord avec ça? Ok. Et là, nous sommes témoins ce matin de leurs efforts, de leur succès, mais parfois aussi de leur lutte. Et en étant présents et attentifs, nous leur montrons qu'ils ne sont pas seuls dans le parcours, mais que nous sommes tous avec eux à les entourer. Cette cérémonie est aussi une opportunité pour nous de leur signifier notre soutien inconditionnel et nos bénédictions, que ce soit par la prière, que ce soit par des paroles d'encouragement, que ce soit là par notre présence, tout simplement, nous affirmons notre engagement à les accompagner. Est-ce que vous êtes d'accord pour les accompagner? Amen. Amen. L'Église joue un rôle fondamental pour la jeunesse. Elle joue un rôle fondamental. Elle est le lieu de refuge. Elle est le lieu d'instruction, elle est le lieu d'encouragement, de soutien. Et en soutenant les jeunes, nous assurons la transmission des valeurs chrétiennes, ce qui nous tient à cœur. et on leur offre un ancrage solide dans un monde en constante évolution. Certaines évolutions, on le remarque, elles sont positives. D'autres, elles sont un peu plus nuisibles dans leur avenir et leur foi. Et ce matin, la cérémonie des nouvelles générations est bien plus qu'un simple événement. C'est une déclaration collective de foi, de soutien envers les plus jeunes membres de notre communauté. Amen. Alors, ce qu'on va faire ce matin, c'est un peu spécial. Mais il y a plusieurs groupes dans le pôle des 0-25 de l'Église. Et on commence chez les tout-petits. Chez les tout-petits. Chez les maternelles. Et on va leur donner quelque chose qui va marquer ce passage au groupe au-dessus d'épisode. Alors, épisode, c'est de 4 ans au CM2. Mais là, on va faire ce qui passe de épichoun à épisode. Et je vais demander à Mélodie de s'approcher. Elle va citer des prénoms et on va innover pour tous ces petits jeunes qui passent justement au groupe supérieur.
Alors, nous accueillons Margot Ruby. Nous accueillons Mathis. Yada. Samuel. Timéo.
Alors on continue parce que la famille est grande et là ce passage est assez crucial. On passe du CM2 en 6e. Bam, 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 bam. Vous avez 2 mois pour vous préparer. C'est toujours un passage assez délicat. Alors on a comme responsable Magali qui est responsable de l'épisode. Et puis on a Roselyne qui est responsable des CM2 sur épisode. Et du coup, elle va avoir le privilège de présenter ses enfants.
Alors on est très fiers que vous passiez en 6e. On est très fiers de vous pour votre passage à épisode et vous allez maintenant vers de nouveaux horizons, vers Guillaume et toute l'équipe des Between. On vous félicite pour ça. Un peu triste que vous nous quittiez. Alors je vais vous appeler les uns après les autres et ensuite peut-être d'autres dans la salle. Alors Ashot, c'est à toi. Évangeline. Qui est très courageuse avec la jambe blessée et le cœur souriant toujours. Et puis c'est à toi, Victor. Et puis nous accueillons Roméo. Maintenant, le doux sourire des Gilènes. Lilia, c'est à ton tour. Alors certains enfants ne sont peut-être pas là, mais je vais citer les prénoms quand même au cas où. Il s'agit d'Alizania, Alissa, Andréane, Catherine, Charlize, Elsa, Laura, Jacobo, Léonard, Manoa et Nathan, si jamais ils étaient là, qui ne se sentent pas exclus. Ils auront leur diplôme évidemment.
Alors on continue après le passage. Ah, pardon.
Ah, Ilona. Ah, ben voilà, Ilona, on te cherchait. Alors, on accueille spécialement Ilona, toute scintillante.
On va continuer, bien sûr. Allez. Cette année, on a ouvert un groupe qui s'appelle les Between. C'est les pré-ados. C'est les 6e, 5e. Ça a été un super challenge. Et je veux vraiment que vous applaudissiez Agnès, qui a relevé le défi. Parce qu'ils étaient 20. Ils étaient 20. Et Guillaume aussi, qui a relevé le défi avec Jérémy. Je sais qu'il y en a qui sont venus prêter main forte pour ce groupe qui a vu naissance en septembre. Et vraiment, merci. Donc, ben, vous allez passer chez les ados. Vous êtes contents?
Donc, on va accueillir Mathis qui va chez les cadeaux. Ensuite, il y a Nathanaël qui va chez les cadeaux. Il y a Daryl qui va chez les cadeaux. Ensuite, il y a Russell. Au revoir, Russell. Et il y a Gabriel. Il y a Gloria Allison. Il y a Timothée. Et il y a Samuel.
Merci pour votre patience, on n'a pas terminé. Il y a un passage encore qui est crucial, vous savez, quand on a 18 ans et qu'on se dit, ouais, super, on rentre dans l'âge adulte. Ils ont encore besoin de nous, ils ont encore besoin de l'Église. Et là, c'est les chers ados qui ont été choyés, entourés par Damas, par Jérôme, par Philippe, par Gabriel, Alexis, Erika, il y en a d'autres, Yannick. Et ça y est, ils passent chez les jeunes. Donc on a Glory qui représente le staff jeunesse, avec il y a Mackenson, il y a Laura, il y a Mathieu, Anaël, il y a Mélodie, Émilie. Donc ils vont les accompagner. Jade, pardon.
Voilà, ils ont un peu peur, hein. Ils sont dans le coin là-bas. On peut les encourager effectivement. Donc dans l'équipe, il y a aussi Simona, Marlène, on est vraiment un grand groupe et c'est vraiment... C'est un peu un pansement au cœur de vous voir partir chez les jeunes, mais vraiment content de voir votre évolution, de voir les baptêmes de certains. Et on espère vraiment que le Seigneur va continuer à vous bénir chez les jeunes. Donc, je vais appeler Isalis, qui s'est fait baptiser la semaine dernière, entre autres. Ensuite, Cloverson. On peut applaudir Maxime. Entre-temps, on peut applaudir ceux qui ne sont pas présents, mais qui passent également chez les jeunes. Il y a Marc-Emmanuel, il y a Lise, il y a Naomi, Anastasia. Alors, Maëlys, c'est ton tour. Machia Maël. Il y a Léna. Loane. Alors Loane est présente, je crois, mais elle est peut-être de ce côté. C'est pas grave. Jules. Et là, ça va être notre liste. Au revoir, monsieur.
Est-ce qu'on peut les applaudir encore une dernière fois?
Et j'aimerais un tonnerre d'applaudissements pour Ilona, parce qu'il y a eu une interversion de diplôme, mais elle en mérite vraiment un beau diplôme pour sa patience. Et elle va avoir une belle photo.
Et on peut applaudir tous ceux qui entourent nos jeunes, nos enfants, nos ados, les accompagner dans nos prières. C'est un moment phénoménal. Je vais redemander à Glory de remonter, s'il te plaît, si tu veux bien revenir. Glory, merci. Je vais demander à Laura et Mackenson de venir prier justement parce que on fête les transitions et il y a des jeunes qui ont transité, qui sont partis de Strasbourg. Il y en a qui viennent pour des études. Donc, si je ne me trompe pas, il y a Aglaé, il y a Léo et il y a Étienne. Alors, on leur a demandé leur photo, mais on les attend toujours. Donc, les jeunes, je pense que vous arrivez à voir qui c'est. Mais en tout cas, on veut encore les encourager, les bénir. Alors, si vous voulez bien vous lever tous ensemble pour qu'on puisse prier pour ces jeunes qui sont partis et pour ces jeunes qui ont grandi.
Seigneur mon Dieu, nous te remercions, Seigneur, pour ces instants particuliers que nous passons ensemble, Seigneur. Merci pour tous ces enfants, Seigneur, ces ados, ces jeunes, Seigneur, qui ont été présents cette année durant au niveau de l'EPI, Père éternel. Et je te prie de bénir tous leurs parents également. Voici, Seigneur, ces jeunes que nous te présentons, qui partent maintenant. Nous te demandons, Seigneur, de les bénir là où ils vont, Seigneur. Je te prie de bénir vraiment Étienne, Léo, là où ils seront, Seigneur mon Dieu, ensemble. Bénis-les dans leurs projets, Seigneur mon Dieu, afin vraiment qu'ils puissent grandir en toi, Seigneur mon Dieu. Merci pour leur service, merci pour leur cœur. Et Seigneur, on te remet également Aglaé, Père éternel. Merci pour son service, pour sa douceur, Seigneur. Elle nous a tellement bénis aussi au sein de la jeunesse. Vraiment, nous te remercions pour elle. Accompagne-la où elle va. Et vraiment, Seigneur mon Dieu, nous savons que nous pouvons te faire confiance et nous sommes sereins, Seigneur Jésus. Nous te remercions également pour voilà, tous ceux qui ont accompagné, Père éternel. Je veux juste aussi citer Tim, Seigneur, qui était là aussi au niveau du staff. Vraiment, merci encore pour ton amour, pour ta grâce qui nous accompagne, qui nous enseigne. Et nous te sommes vraiment reconnaissants pour tout ce que tu fais, tout ce que tu es pour nous. Amen.
Merci, merci à tous, merci. Et n'oubliez pas, dans vos prières, n'oubliez pas aussi des paroles d'encouragement. N'oubliez pas qu'ils sont là, même si on ne les voit pas tous les jours, même si on ne les voit pas tous les dimanches, ils sont là. Et c'est bon de voir des jeunes, des enfants. Vous êtes d'accord avec ça? Amen. Un dernier tonnerre d'applaudissements pour les encourager, pour leur dire qu'on est là, qu'on les aime. Ils font partie de notre église et de notre communauté.
Yes, c'est beau de voir tout ça, non? Qui est content de pouvoir célébrer, de mettre en avant les enfants, les ados, les jeunes? Je crois que Dieu est fier de nous. Yes! Lors de l'AGE qu'on a vécu au mois de mars, j'étais à l'arrière avec mes deux filles, puis avec Blanche notamment, puis justement c'est appointé avec la cérémonie qu'on vient de vivre. Pendant que Mathieu parlait du projet immobilier, il y avait Blanche avec deux autres filles. Et à un moment donné, je les regarde comme ça, puis tu sais, des fois, on a des moments, en tant que papa ou maman, on est admiratif, on est fier, et puis je la regarde, du coup, avec des yeux brillants. Puis, et là, je la vois, puis elle parle avec deux filles, puis à un moment donné, elle change de sujet, et puis elle dit, allez, venez les filles, on va louer le Seigneur. Elle a 4 ans et demi. Et du coup, elle se retourne, elle s'en va, bon, personne ne l'a suivie, c'est pas grave, c'était un premier pas, et puis du coup, elle se dirige vers moi, puis il y a eu un chant à la fin de la jeu, puis on a loué Jésus ensemble, puis ça m'a juste touché. Je me suis dit, c'est beau à quel point, à cet âge-là, on peut avoir de l'influence, parce que c'est elle qui m'a encouragé à louer Jésus à ce moment-là. Je pense qu'il n'y a pas d'âge pour avoir de l'influence. Il n'y a pas d'âge pour encourager, il n'y a pas d'âge pour guider vers Jésus. Des fois, c'est des choses toutes simples. Et j'aimerais qu'on regarde un homme assez discret, qui s'appelle Ananias. Un homme assez discret, on a juste quelques versets sur lui. C'est notamment lui qui a amené Saul de Tarse, qui viendra à l'apôtre Paul, qui a écrit la moitié du Nouveau Testament. Donc c'est un gars qui a eu une influence, qui a guidé, qui a encouragé, qui était allé voir un homme qu'on ne voulait pas voir en tant que chrétien à l'époque. Et il allait le voir et puis il a juste retransmis ce que Dieu lui avait mis à cœur. Puis on va juste analyser un petit peu son histoire pour voir ensemble à quel point chaque personne peut devenir un Ananias pour un Saul de Tarse. Chaque personne pour avoir de l'influence, comme Ananias en a eu. Mais avant ça, un petit contexte. Livre des Actes, c'est le début de l'Église. C'est l'effusion du Saint-Esprit, c'est aussi le début de la persécution. c'est les chrétiens qui sont dispersés suite au meurtre d'Étienne, un disciple de Jésus qui a juste voulu assumer sa foi devant des gens, il s'est fait lapider, et suite à ça, alors que Saul de Tarse justement, qui était un des gars qui a approuvé les meurtres, qui devait arrêter tous les chrétiens et les ramener à Jérusalem pour qu'ils puissent être jugés, suite à ça, les chrétiens vont se disperser. Et alors que l'apôtre Paul, Saul de Tarse, alors je vais changer les noms parce que là, dans le texte, c'est Saul de Tarse, mais c'est l'apôtre Paul, ok? Donc je vais inverser Saul et Paul, soyez rassurés, c'est ma langue qui va fourcher. Mais alors que Saul de Tarse est là, s'en va voir le grand prêtre de la ville de Damas pour avoir des autorisations pour ramener tous les chrétiens à Jérusalem afin qu'ils se fassent arrêter, juger et pourquoi pas tuer. Alors qu'il est en chemin, il rencontre Jésus, vous connaissez l'histoire. Il rencontre Jésus, il a comme une grosse lumière blanche qui apparaît, et puis il dit, Saul de Tarse, pourquoi me persécutes-tu? Puis il dit, mais qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus, celui que tu persécutes. Et il va vivre un temps fort avec Jésus, une grosse expérience qui va le rendre aveugle, et il va avoir des consignes de la part de Dieu d'aller dans une maison à Damas, d'attendre que Ananias va venir vers lui, prier pour lui, lui rendre la vue, et ensuite il va commencer son cheminement avec Dieu. Et là, Ananias rentre en jeu. Ananias qui est quelqu'un de classique. C'est pas un pasteur, c'est pas un missionnaire, c'est pas un évangéliste, c'est pas un prophète, c'est un chrétien, un citoyen qui aime Jésus et qui veut le servir, tout simplement, comme vous et moi. Acte 9, verset 10. Donc c'est juste après que Saul de Tarse reçoit les indications de la part de Dieu d'attendre qu'Ananias arrive. Il y avait à Damas un disciple du nom d'Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias, il répondit, me voici, Seigneur. » Juste là, un petit moment de cœur à cœur avec vous, j'ai toujours été mal à l'aise devant des récits, devant des passages où des gens reçoivent des visions. Comprends, par exemple, le roi David, Moïse, Élie, Ananias, l'apôtre Pierre, un chapitre plus loin qui va recevoir une vision aussi par rapport à Corneille, bref, des grosses visions comme ça. Vous savez pourquoi je suis mal à l'aise? Parce que ça fait 13 ans que je suis chrétien et ça m'est arrivé qu'une seule fois. Du coup, je me dis, est-ce que je suis moins spirituel qu'eux? Est-ce qu'il me manque quelque chose? Est-ce que ça m'est arrivé une fois en 13 ans? Alors peut-être que dans 13 ans, il y aura la deuxième vision qui arrivera, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est mathématique. Mais ça m'est arrivé qu'une fois. Je suis toujours mal à l'aise parce que ce n'est pas ma réalité. Je ne vis pas ça tous les jours. Et quand on lit les actes, des fois, on a l'impression que c'est ce qu'ils vivent tous les jours. Vous croyez pas? C'est, ah, là, il a une vision, il est en train de manger sur le toit, Pierre. Et puis là, il y a une grosse vision. Puis ça fait partie de leur réalité. Tu as l'impression que c'est leur quotidien. Mais j'ai été libéré il y a quelques années. J'ai découvert le secret. Écoutez bien, c'est vraiment précurseur ce que je vais vous dire. J'ai découvert le secret, j'ai découvert les différentes clés pour avoir des visions quotidiennes. Je ne sais pas si je vais vous partager parce que normalement, il faut être à un niveau spirituel. C'est pas tout le monde qui peut y accéder. J'ai découvert le secret pour avoir des visions de la part de Dieu quotidiennes. En fait, je les ai cachés là. Voici le secret pour avoir des visions quotidiennes. Pour ceux qui ne voient pas, c'est une Bible. Si tu lis la Bible à chaque jour, ok, échangeons le mot vision pour parole de Dieu. Parce qu'en fait, la vision, c'est juste un moyen. Ce n'est pas le but en soi. La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu vivante pour nous aujourd'hui. Et le problème, c'est que souvent, on fait l'erreur. Moi, quand j'étais mal à l'aise, quand je voyais des récits où ça parlait de vision, c'est que j'étais en mode priorité sur le mot vision et pas sur le fait que Dieu veuille parler. Et du coup, c'est ça qui me stressait. Je fais, mais c'est pas ma réalité. C'est pourquoi j'ai pas de vision? Pourquoi j'ai? Alors que j'ai la parole de Dieu à chaque jour accessible et que si j'ai un cœur disposé, Dieu va me parler. Deuxième clé, c'est vous, l'Église. Combien de fois Dieu m'a parlé à travers quelqu'un? Combien de fois, même des gens qui n'étaient pas chrétiens des fois. C'est juste incroyable, je me souviens, ma petite sœur, quand il y a une dizaine d'années, il y avait vraiment une réponse que j'attendais, une direction que je voulais, et puis elle m'envoie un message anodin, elle ne sait pas du tout la situation, elle m'envoie le message, et je deviens tout blanc, parce que c'est Dieu qui me parle littéralement à travers ma petite sœur qui n'était pas chrétienne. Dieu parle à travers les gens, Dieu parle à travers l'Église. Et des fois, on sous-estime à quel point on peut être un Ananias, on peut juste recevoir une parole pour quelqu'un, même sans se rendre compte. Blanche, lors de la GE, ma fille m'a encouragé, puis elle s'en est même pas rendu compte, elle a oublié. Là, si je lui dis ça, elle me dirait, ouais, c'est super, enfin, ok, eh bien, on va dessiner, elle me dirait ça. On a de l'influence. Et des fois, c'est à travers des choses toutes simples, d'écouter à travers la Bible, d'écouter à travers l'Église, et des fois, d'écouter à travers des temps de silence aussi. recevoir des visions de la part de Dieu à travers des temps de silence. Puis si on remplace le mot vision par parole de Dieu, là ça fait du sens. Là ça fait du sens. Parce qu'en fait ça nous enferme des fois juste de voir vision, de voir le mot rêve, de voir des choses qui sont peut-être un peu plus incroyables, un peu plus exceptionnelles, un peu plus... Et des fois on veut revivre ça. Je me souviens, j'ai discuté il y a quelques mois avec un ancien d'une église qui me disait « Ouais, il y a 10 ans, on a reçu une parole comme quoi on allait vraiment vivre le baptême de feu, le baptême de feu de l'Esprit. » Il dit « Mais ça fait 10 ans, on l'attend toujours. » Et du coup, il me dit « Qu'est-ce que tu en penses de ce passage-là » Puis je lui explique en fonction de tout ce que j'ai lu, les commentaires, l'exégèse, tout ça. Et en fait, la conclusion, c'était « Mais en fait, t'es déjà en train de vivre, t'es en train de servir Dieu avec le Saint-Esprit en toi. » C'est ça le baptême de feu, c'est pour la mission, c'est t'es en train de témoigner, t'es en train de... Il dit « Ah ouais ?» Je suis en train de le vivre vraiment. Et pendant 20 minutes, il me dit, mais non, c'est pas possible. Si, c'est ça. Quand on est focus sur le moyen par lequel Dieu parle, on met de côté ce que Dieu nous dit. Et on met de côté, en fait, le plus important qui est, Dieu parle, je vais écouter. C'est comme quand tu commandes un paquet sur Amazon ou sur un site. C'est comme si tu gardais juste l'emballage. Alors que ça, c'est pas l'important, l'emballage finit à la poubelle. Ce qui est important, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Le moyen par lequel Dieu parle, c'est pas ça le plus important. C'est d'être à l'écoute et c'est d'écouter ce qu'il veut te dire. Et là, Ananias reçoit une vision. Et ce qui est intéressant, quand tu analyses un petit peu juste le texte, c'est que Dieu va parler en deux étapes. Je sais pas si vous avez déjà remarqué ça, c'est en préparant le message, je me suis rendu compte. Ce qui se passe, c'est que le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il s'arrête. Ananias répond, « Me voici Seigneur. » Et ensuite, Dieu lui parle du reste de la vision. C'est un petit détail super important. Parce que trop souvent, Dieu ne donne pas les détails de ce qu'il veut nous dire parce qu'on n'est pas disposé à l'écouter. Si Ananias avait dit, « Non, j'ai pas envie d'écouter », je ne pense pas que Dieu lui aurait parlé. Le premier appel, et ça c'est pour tous. C'est comme avec Samuel. Samuel qui pensait que c'était son pasteur, son prophète qui l'appelait. En fait, c'était Dieu. Mais en fait, juste il l'appelle. Et une fois que tu es disposé, tu dis oui, Seigneur, me voici. Là, il va donner des éléments pour savoir qu'est-ce que tu dois faire ensuite. Disposition de cœur. C'est super important. C'est comme ma plus petite défie, Ambre. En ce moment, elle fait un truc que je comprends pas, comme beaucoup d'enfants. Et on est en voiture avec ma femme, on discute. Et d'un coup, Ambre, qui va avoir 2 ans, elle fait « Papa ?» Là, je fais « Oui ». Après, elle fait « Maman ?» Là, elle fait « Oui ». Et là, elle fait « Papa ?» Et ça dure 5 minutes. Je dis « Oui, qu'est-ce que tu veux ?» Et là, elle regarde, elle sourit « Papa ?» Je ne comprends pas. Elle appelle mon nom, mais elle n'est pas disposée à écouter ce que je veux lui dire après. Et des fois, on fait pareil avec Dieu. Hein. C'est « Ah, Seigneur, ouais, c'est vrai, vas-y, envoie-moi tout ça. » Puis en fait, on n'est pas sensible, on n'est pas... Parce qu'en fait... On n'est pas vraiment disposé. Une réelle disposition de cœur de Seigneur. Quand tu ouvres la Bible et tu dis, Seigneur, là, je suis prêt à entendre ce que tu veux me dire. Je suis persuadé que Dieu va parler. Et des fois, ce n'est pas dans le timing direct, mais des fois, c'est dans la journée. Des fois, c'est pendant un rêve. Des fois, c'est pendant une discussion. Des fois, c'est. Il ne faut pas être fermé à une manière de parler. Mais des fois, c'est juste une disposition de cœur qui nous empêche de pouvoir écouter Dieu et de savoir ce qu'il veut pour nous. Et Ananias, il était disposé. Me voici, Seigneur. Je suis prêt à ce que tu me dises quoi faire. Je suis prêt à ce que tu me dises quoi faire. Dieu ne donnera pas forcément les détails de ce que tu dois faire si tu n'es pas disposé à l'écouter et lui obéir. Parce que des personnes, des Saul de Tarse pour Ananias, mais des Saul de Tarse pour nous, en fait, il y en a partout. Il y en a partout. Et si tu doutes de ça, si c'est OK, si tu dis non, autour de moi, tout le monde... Non, dans ton travail, est-ce que tout le monde est chrétien? Dans ta famille, est-ce que tout le monde est sauvé? Dans tes amis, est-ce qu'ils ont tous reçu le salut? Si la réponse est non, alors c'est qu'il y a des Saul de Tarse à côté de toi. C'est qu'il y a des gens que Dieu t'appelle à aller voir parce que des fois, tu sais, j'ai réalisé ça en préparant le message encore une fois. Si tu es le seul chrétien dans ton entreprise, si tu es le seul chrétien dans ton travail, dans ta famille, dans... est-ce que tu as déjà réalisé que tu es potentiellement la seule personne qui prie pour eux? Là, ça met un coup de pression. C'est vrai. Est-ce que tu as déjà réalisé que tu es potentiellement la seule personne qui peut amener un témoignage chrétien, la seule personne qui peut parler de Jésus, la seule personne qui peut montrer à quel point être chrétien, être né de nouveau, c'est ça la meilleure chose qui peut t'arriver. Tu as déjà réalisé ça? Peut-être que Dieu t'a placé ici pour une bonne raison, parce que les gens qui sont autour de toi, tu es la seule personne qui peut parler de l'évangile. Quand tu penses à ça, moi je pense à mes anciens travails avant d'être pasteur où j'étais le seul chrétien dans la boîte. Et en fait, des fois c'est dur, des fois tu as des moments où tu n'as juste pas envie d'y aller. Et puis des soldes de tarse, tu n'as pas envie d'en rencontrer beaucoup parce que bah, des fois ils sont lourds, des fois ils sont insultants, des fois... Mais en fait, après quand tu prends du recul, tu dis mais en fait heureusement que j'étais là parce que l'évangile a été prêché. Et après c'est l'esprit qui touche, c'est Dieu qui fait son œuvre. Peut-être que Dieu t'a placé là où tu es, même peut-être dans l'église. Avec des jeunes dans la foi autour de toi, peut-être qu'il y a des jeunes qui sont passés sur les strates ce matin, et puis après on aura aussi des baptisés un temps avec eux. Peut-être que Dieu t'a placé là pour que tu puisses être un grand frère, une grande sœur aussi avec les gens qui sont ici sur place. Comme Ananias, avec Saul de Tarse. Dieu veut t'envoyer, Dieu veut te parler, mais il faut que tu sois disposé, il faut qu'on soit disposé. Acte 9, on continue la lecture. Acte 9, versets 11 à 14. Le Seigneur lui dit alors, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et dans la maison de Judas. Demande à dénommé Saul de Tarse. En effet, il prie et il a eu en vision un homme appelé Ananias entrer et poser les mains sur lui afin qu'il retrouve la vue. Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de beaucoup tout le mal que cet homme a fait à tes saints à Jérusalem. Et ici, il a plein pouvoir de la part des chefs des prêtres pour arrêter tous ceux qui font appel à toi. » La réaction d'Ananias, elle est tout à fait normale. Mettez-vous à sa place. Il est à Damas, certainement à cause de Saul de Tarse. Parce que c'est suite à la persécution que tous les chrétiens se sont dispersés. Avant, ils allaient tous à Jérusalem. Et là, il se retrouve à Damas. Et la mission de l'apôtre Paul, de Saul de Tarse, c'est justement d'arrêter les chrétiens à Damas et les ramener à Jérusalem. Donc là, Dieu l'envoie dans la gueule du loup. Vous comprenez sa réaction, c'est « Est-ce que tu es vraiment sûr qu'il faut que... » Ah, parce qu'il y a d'autres gens à sauver, en fait. Il y a d'autres gens plus gentils à sauver. Il y a d'autres gens plus accessibles à sauver. Et des fois, on a la même réaction, si tu dis « Non, est-ce que vraiment je dois parler à mon boss de toi ? Est-ce que vraiment je dois parler à ce collègue-là de toi qui est anti-Dieu, qui est insultant, qui est... Est-ce que vraiment tu veux que je parle à mes voisins ? Est-ce que tu veux vraiment que je parle à ce membre de ma famille alors que à chaque fois ça se passe mal, à Noël ça part toujours en freestyle ? Est-ce que vraiment tu veux m'envoyer là-bas ? On a la même réaction des fois. Mais des fois Dieu nous appelle. Et quand on regarde Ananias, ce qui est intéressant, tu sais, on pourrait se poser la question, sachant que nous on peut se dire, mais pourquoi moi vers cette personne, Ananias aurait pu se dire, pourquoi moi? Je pense qu'il y a deux raisons à ça. Premièrement, il était disposé. On l'a vu, disposition de cœur, il était prêt à y aller, tout ça. Deuxièmement, je pense que c'est juste une raison logistique et géographique. Ananias, à ce moment-là, se trouve à Damas, il habite à Damas. Et quand Dieu donne les directives, il sait très bien de quelle maison il parle. Il connaît les rues. Moi, je suis de la Méno. Si tu m'envoies à la Robertsau, telle rue, je ne vais pas connaître, je vais devoir prendre le GPS. Si à la Méno, tu me dis, va à tel carrefour, à tel truc, je vais savoir y aller. En fait, c'est la même chose avec Ananias à ce moment-là. Saul de Tarse se trouve dans une maison à Damas. Et en fait, la raison est toute simple. Il est juste à côté. Il est juste à côté. Il aurait pu envoyer l'apôtre Pierre. Mais non, ils étaient tous à Jérusalem. Tous les apôtres de Jésus étaient à Jérusalem. C'était un des seuls qui était là. Il était juste à côté. C'est aussi simple que ça. Quelqu'un disposé de proche, il l'a envoyé. Tes voisins, ce n'est pas à moi de les toucher. Ce n'est pas aux autres de les toucher. C'est à toi d'aller leur parler de Jésus. Les gens qui sont là, peut-être que tu connais des jeunes qui sont fait baptiser la semaine dernière. Peut-être que tu connais des enfants, des ados, des jeunes qui sont passés sur l'estrade ou peut-être qui n'étaient pas là mais qui devaient passer. Peut-être que toi, tu les connais. Tu sais quoi? Tu as un rôle à jouer avec eux. Tu as une influence à avoir. T'as un impact à avoir. T'es appelé à être un Ananias. Je suis appelé, on est appelé à être des Ananias et à être juste des fois un guide et puis à leur rappeler à quel point ils sont appelés de Dieu. À leur rappeler que leur passé, c'est pas ça qui les définit, mais que c'est la grâce de Dieu qui doit les amener dans cette destinée que Dieu a pour eux de faire avancer le royaume. Et ça, c'est le rôle de chacun. C'est le rôle de chacun. Il y a des Saul de Tarse juste à côté de nous. Et ça, c'est notre rêve à l'épi. Depuis plusieurs mois, avec l'équipe pastorale, on rêve de mettre en place un système où chaque jeune dans la foi va être accompagné par un grand frère ou une grande sœur spirituelle, par une maman, par un papa spirituel, pour ne pas être seul. Parce que c'est tellement important. Moi, je l'ai vécu, je fais 13 ans que je suis chrétien, et des Ananias, je pourrais vous en citer une dizaine. Sans eux, je ne serais pas là. Et je pense que plusieurs l'ont vécu aussi. Sans Ananias, des fois, On passe par des moments décourageants, puis personne n'est là pour nous encourager. Personne n'est là pour nous rappeler à quel point Dieu est fidèle. Personne n'est là pour nous rappeler à quel point l'amour de Dieu est toujours là, est infini. C'est notre rêve à l'épi que chaque jeune dans la foi puisse trouver un grand frère, une grande sœur, un papa, une maman spirituelle. Et tu peux être Ananias. Parce quoi ? Parce qu'il y a des Sauls à côté de toi. Il y a des Sauls à côté de toi, c'est sûr. Il y a des Sauls de Tarse à côté de toi. Et il y a un autre élément qui est super intéressant. Puis je pense que c'est pour nous encourager. Si on veut répondre à cet appel d'être un grand frère, une grande sœur, un mentor, appelez-le comme vous voulez, mais quelqu'un qui encourage, quelqu'un qui accompagne, quelqu'un qui conseille. Il y a un élément super important. En analyse narrative, à l'école biblique, quand on étudie un petit peu les récits, il y a un domaine qu'on appelle l'ironie dramatique. Et en fait, on est en train de vivre dans le récit une ironie dramatique. Qu'est-ce que c'est ? C'est comme dans un film, quand par exemple, la caméra filme un méchant qui se cache dans une pièce et t'as le gentil d'histoire qui s'avance et lui, il sait pas du tout qu'il y a le méchant. Et là, on vit une ironie dramatique parce que nous, on a une info que le gentil n'a pas. Et en fait, il se passe ça ici. Parce qu'Ananias, il est persuadé que Saul de Tarse est toujours le même. Il est persuadé que c'est toujours un terroriste. Il est persuadé que s'il va y aller, il va se faire défoncer. Sauf que là, il a une info qu'il n'a pas. Et l'info qu'il n'a pas, elle est cruciale, c'est qu'il a rencontré Jésus. Et des fois, on a un petit peu les mêmes lunettes par rapport à certains jeunes qu'on voit à l'église. Tu sais, lui, il fait juste le bazar, il fait juste pas écouter, il fait juste... Mais en fait, on ne sait pas ce qu'il vit avec Jésus. On ne sait pas ce qu'il vit. On ne sait pas ce que nos voisins, peut-être que Dieu a déjà commencé une œuvre. Et là, Dieu, il a eu besoin de personne pour parler à Saul de Tarse. Il s'est révélé tout seul. Et Dieu va le rassurer tout de suite après, mais on ne sait pas, on n'a pas toutes les infos sur ce que les gens y vivent. Et en plus, il ne sait pas à quel point Dieu l'appelle. Acte 9, versets 15 à 16. « Mais le Seigneur lui dit, vas-y, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour faire connaître mon nom aux non-juifs, aux rois et aux israélites. Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour moi. » Ça, c'est de l'appel, hein. « Tout ce qu'il doit souffrir pour moi. » Là, Craig Kinner, qui est un théologien du Nouveau Testament, émérite tout ça, il est vraiment pertinent sur le contexte de l'époque. Il va dire qu'en parlant de souffrance, Dieu est en train de rassurer l'apôtre Paul. La mauvaise lecture serait, il est en train de rassurer Ananias. La mauvaise lecture serait de dire, il va souffrir pour moi parce qu'il a fait souffrir beaucoup de monde. Ça, c'est une lecture légaliste. Parce que c'est pas en accord avec la théologie de la grâce de Jésus. Mais si on considère la culture de l'époque et puis un petit peu les autres textes d'avant, en fait, ce qu'il est en train de dire, c'est que Paul va passer du camp des persécuteurs au camp des persécutés. Il est en train de dire, hey, Ananias, sois rassuré, Saul de Tarse est dans ton équipe maintenant. Il fait partie de ceux qui vont souffrir pour mon nom. Avant, il faisait souffrir ceux qui portaient le nom de Christ. Maintenant, il va souffrir parce qu'il va porter mon nom. Il n'est pas du tout en train de dire il va souffrir pour le punir. Il est en train de dire non, c'est bon, j'ai changé son cœur. Il va souffrir pour mon nom. Il fait partie de ton équipe. Il est avec toi. Il fait partie de l'Église. C'est un enfant de Dieu. Mais il faut que tu ailles le guider, il faut que tu ailles le conseiller, il faut que tu ailles le... Et en fait, quand Dieu fait une œuvre comme ça, ce n'est pas à nous de définir qui sont les gens, c'est à Dieu de définir qui ils sont. Même si c'était la pire personne, même si c'était... Moi, je me souviens d'une... Un prof à l'école publique qui racontait quand il était responsable jeunesse, dans les groupes de jeunes, il y a toujours un jeune là que personne n'arrive à gérer. C'est toujours celui qui répond à côté de la plaque, c'est toujours celui qui amène le trouble dans les réunions, qui amène le bazar. Et c'est le genre de gars, on veut l'éviter des fois. Et puis, tu sais, on a tous vécu ça. Moi-même, je l'ai fait. C'est épuisant. C'est, psychologiquement, c'est fatigant, tout ça. Et il racontait qu'un jour, il était responsable jeunesse, puis il rencontre ce jeune. Il va sortir dans un café, puis il le rencontre. Et puis le jeune, il lui dit, ah, je sais, tu vas encore me reprendre. Tu vas encore me dire que j'ai un mauvais comportement. Hein, tu vas encore. Et là, il a eu comme un travail de la part de Dieu en lui. Puis il a dit, non, c'est pas vrai. Je veux juste voir comment tu peux répondre à l'appel de Dieu. Et le jeune, il a tellement été choqué que Dieu a commencé une œuvre en lui et ce jeune-là, aujourd'hui, il est pasteur. Et il nous avait raconté ça en mode, mais arrêtez de mettre des étiquettes sur les gens. Saul de Tarse, là, c'est le gars qu'on voulait éviter. On ne voulait pas le voir. On ne voulait pas le voir. Mais Dieu lui dit, non, mais en fait, tu ne sais pas l'appel qu'il y a sur sa vie. Tu ne sais pas tout ce que j'ai prévu de faire à travers lui. Et en plus, il y a deux choses choquantes. La première, c'est que oui, c'est un terroriste. Et deuxièmement, il lui dit... Il va avoir un impact sur les non-juifs. Mettez-vous dans la culture de l'époque. Il est en train de dire, va voir un gars qui n'est pas aimable pour lui dire que je l'appelle à aller voir des gens qui ne sont pas aimables. Dans la culture de l'époque, c'est super choquant. Et des fois, il faut être honnête, des fois il y a des, sans citer, mais il y a des catégories de personnes avec lesquelles on est moins à l'aise. Est-ce que je suis seul? Ok. Tu couperas la caméra, on sait jamais si... Mais non, des fois, il y a des catégories de personnes avec lesquelles on est moins à l'aise. Et Dieu ne nous appelle pas forcément à aller voir obligatoirement ces catégories de personnes. Des fois, c'est vrai, des fois, c'est pas vrai. Mais parfois, comme Ananias, Dieu nous demande d'accompagner des jeunes qui, eux, vont avoir cet appel-là. D'accompagner des jeunes dans la foi qui, eux, vont aller faire le ministère d'une manière où nous, on ne serait pas capable de le faire. Ce que Dieu demande à Saul de Tarse, l'appel qu'il met sur sa vie, ce n'est pas l'appel d'Ananias. Il n'aurait certainement pas été capable. Parce qu'en fait, Saul de Tarse, il a toute une histoire, il a toute une expérience en fait, qui va l'aider dans l'appel que Dieu lui donne à aller voir les rois, à aller voir les Romains, à aller voir les non-juifs. Bref, donc Dieu l'appelle et puis Dieu savait ce qu'il faisait, même avant qu'il soit chrétien. Même avant que Saul de Tarse rencontre, il savait ce qu'il faisait. Mais ce n'était pas le rôle, ce n'était pas l'appel d'Ananias. Ça, c'est l'erreur qu'on fait souvent, c'est... Quand on accompagne des jeunes dans la foi, des gens qui viennent de se convertir, des fois, sans se rendre compte, on veut les forcer à répondre au même appel que nous. Ce n'est pas notre rôle. Ce n'est pas notre rôle. Mon but, ce n'est pas de faire des mini-Jérômes. Je préfère rester seul dans ce rôle-là. Ce n'est pas le but. Tout le monde n'a pas le même appel que moi. Et ceux que je vais accompagner, je n'aurai pas leur appel non plus. Le but, ce n'est pas de les forcer à répondre à l'appel que nous on considère comme étant le bon appel. Non, c'est d'être sensible à la parole de Dieu et puis dire, ok, Dieu l'appelle à ça, ben je vais l'encourager là-dedans, même si c'est un domaine dans lequel je ne suis pas à l'aise. Et ça, c'est dur. Mais Ananias l'a fait. Ananias l'a fait. Je vais appeler l'équipe de louange à s'avancer. Merci. Il ne faut pas les forcer à répondre au même appel que nous. Quand j'étais au Québec, on arrivait en 2017 et au bout de quelques mois, on a voulu s'impliquer avec les ados, avec ma femme. Enfin, ma femme a voulu s'impliquer et moi, dans mon caractère, j'étais juste un suiveur. Donc, j'ai quand même suivi ma femme, s'impliquer aux ados. Et au bout de quelques mois, je me suis rendu compte que ce n'était pas forcément ma fibre à ce moment-là. J'aime les ados, j'aime prêcher aux ados, tout ça, mais à ce moment-là, j'étais dans une période où c'était pas ma place. Et au bout de quelques mois, puis moi, dans mon expérience, dans mon histoire, j'ai énormément de mal. Ça va beaucoup mieux aujourd'hui. Dieu a vraiment fait une œuvre en moi. Mais j'avais vraiment énormément de mal à dire non. Et à dire, à décevoir, à dire à quelqu'un, non, en fait, je ne suis pas à l'aise à ça. Je ne suis pas à l'aise à ça. Et au bout de quelques mois, après avoir prié, j'en ai parlé à Anne-Clémence, ma femme, je décide d'aller voir le responsable des ados et lui dire, en fait, je pense que ce n'est pas ma place. Et petit à petit, j'ai quand même eu le désir d'aller m'impliquer aux jeunes adultes. Les 18-35 ans, et je rencontre les responsables, et moi j'avais peur qu'ils me disent non, tu vas devoir persévérer parce que ben, des fois la passion elle vient, voilà. Je me suis fait tout un film de il va me forcer à rester, et moi je vais dire oui. Et en fait, je le rencontre et je lui explique, il voulait juste s'assurer que c'était pour des bonnes raisons, puis je lui dis voilà, je pense pas que ce soit ma place, je suis pas à l'aise, j'ai l'impression qu'on appelle, c'est plus les jeunes adultes, tout ça. Et cette personne qui est encore un mentor pour moi aujourd'hui, il m'a dit très bien, très bien. Il m'a dit, écoute, quand tu es venu aux ados, tu cherchais une implication. Maintenant, je t'encourage à chercher ton appel. Et ça, c'est resté dans ma tête. Et il dira même par la suite, il me l'a rappelé récemment, on discutait ensemble, puis je lui disais que je racontais cette histoire-là. Il me disait, mais en fait, l'erreur qu'on fait souvent, c'est de vouloir répondre aux besoins. Sauf qu'en fait, en répondant à ton appel, tu réponds aux besoins. Et en fait, il m'a juste encouragé et ça m'a comme libéré. J'avais besoin que mon responsable me dise ça. J'avais besoin que mon responsable me dise, vas-y, va dans l'appel de Dieu. Et j'ai rencontré les responsables jeunesse. Je me suis impliqué directement. Et 2 ans après, je suis devenu le pasteur des jeunes adultes à ce moment-là. Puis Dieu, en fait, a conduit tout ça. Mais parce qu'il y a un responsable, parce qu'il y a un Ananias qui m'a dit, vas-y, t'es pas obligé de répondre au même appel que moi. Qu'est-ce qu'il y a sur ton cœur? Puis on a réfléchi ensemble. Et puis en fait, j'ai trouvé ma voie à ce moment-là. Mais grâce à un leader qui m'a dit, il a posé la main sur moi, il m'a dit « Salut mon frère, comme Ananias a fait avec Saul » et puis il m'a dit « Réponds à l'appel de Dieu. Si tu n'es pas à ta place, on trouvera quelqu'un d'autre. » Dieu conduit toutes choses et il faut que tu répondes à ton appel. Mais il a eu ce rôle d'Ananias pour que je puisse répondre à l'appel de Dieu. Acte 9, verset 17. Ananias partit. Une fois entré dans la maison, il posa les mains sur Saul en disant « Salut mon frère. Salut mon frère. » « Salut mon frère », c'est une expression qui était commune à l'époque, mais en fait, là, l'idée, c'est il veut juste l'identifier comme étant chrétien, il veut juste l'identifier comme étant « Ok, on fait partie de la même famille maintenant. » Et en fait, c'était une expression commune, mais les théologiens vont dire que dire ça à ce moment-là, c'était précieux pour Saul. C'était précieux pour Saul. Imaginez-vous comment il devait se sentir qu'Ananias, un ami d'Étienne, qu'il a tué, qu'il a permis de tuer il y a quelques semaines, vienne le voir, il pose la main sur lui, il lui dit « Salut mon frère. » Lui, tu m'as fait beaucoup de mal. Lui, t'as fait du mal à l'église. Lui, t'as tué notre ami Étienne. Lui, mais tu sais quoi ? Salut mon frère, tu fais partie de notre famille maintenant. Et je pense qu'on a besoin de répondre à cet appel-là. Pour tous les jeunes qu'on a vus, pour tous les jeunes qu'il y a ici, pour tous les jeunes dans la foi, des fois même à 60 ans on peut être jeune dans la foi, pour tous ceux qui viennent d'arriver à Dieu, on a besoin d'avoir des Ananias qui mettent la main sur l'épaule en signe de « Hey, on est avec toi, salut mon frère, salut ma sœur, t'appartiens à Dieu, tu fais partie de la même famille, t'as un appel sur ta vie. » Oui, il y aura de la souffrance, comme il l'a dit, on n'est pas là juste pour prêcher la gloire et puis non, il y aura de la souffrance, mais par contre tu fais partie de la famille. Et c'est exactement ce qu'on veut dire aussi à tous les baptisés. Et puis tout à l'heure, ils vont s'avancer avec RP, c'est ce qu'on veut leur dire aussi. Hey, salut mon frère, salut ma sœur. Tu fais partie de la famille, puis on est vraiment content que tu sois là. Dieu t'appelle à faire des choses que peut-être nous, on ne peut pas faire. Dieu t'appelle à toucher des catégories de personnes. Peut-être que nous, ce n'est pas notre appel, mais on veut t'encourager dans ça. Trouve ton appel. Et je crois qu'à l'EPI, il y a de la place pour trouver son appel. Je crois qu'il y a de la place pour trouver son appel, mais des fois, on a besoin d'avoir des Ananias qui dirigent, qui guident, qui amènent, qui conseillent, qui reprennent, qui encouragent, qui enseignent. Un petit coup de téléphone, « Hey, comment ça va dans ta foi ?» Un petit message, un petit moment au café, un petit moment où d'être un Ananias qui rentre dans la maison et qui dit « Hey, salut, viens, je vais prier pour toi. C'est quoi tes besoins en ce moment ?» Je propose qu'on se lève ensemble. Je crois que c'est un appel à tous. Je crois pas que cette histoire elle était juste pour Ananias. Comme l'a dit, pour moi, c'est pas anodin que ce soit un gars normal, un chrétien basique, qui était juste là pour servir Dieu, qui avait certainement un travail. Je crois que c'est notre appel à tous. Je propose qu'on ferme les yeux, puis on va juste pendant que la musique joue, on va pas chanter. Après, c'est RP qui va reprendre la main pour la suite. Je propose qu'on prie, qu'on dise à Seigneur, comme Ananias a dit, Seigneur, me voici. Je prie pour nous. Seigneur, merci pour ce passage. Merci pour ce récit où juste un homme basique est venu répondre à ton appel, à ta demande d'aller voir ce Saul de Tarse, avec toutes les étiquettes qu'il avait, avec tout le mal qu'il avait fait, avec tout ce qu'on pouvait penser de lui. Il y est allé. Il a juste obéi à ta parole, puis il a mis la main sur l'épaule. Salut mon frère. Bienvenue dans la famille. Et ce matin, Seigneur, on veut répondre au même appel. On te prie, Jésus, de nous donner aussi des visions de gens à aller voir, de jeunes dans la foi à aller voir, peut-être nos voisins, peut-être des membres de notre famille, ou peut-être même juste des gens dans l'église qui ont besoin d'avoir des grands frères et des grandes sœurs spirituelles. Je te prie de nous donner des noms, des visages en tête autour de nous pour lesquels on va devenir des Ananias. Viens, Seigneur, nous parler, viens nous conduire, on veut te servir. Et on répond en tant qu'Église, nous voici, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.
Amen, merci au Seigneur pour ce qu'il a mis sur le cœur de Jérôme ce matin. On va poursuivre avec une réponse à cela au travers de la Sainte Cène maintenant. On va juste refaire une lecture dans 1 Corinthiens 11. Où Paul nous dit « Car voici la tradition que j'ai reçue du Seigneur et que je vous ai transmise. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré pour être mis à mort, prit du pain et après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le rompit en disant « Ceci est mon corps, il est pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance scellée de mon sang. Faites ceci toutes les fois que vous en boirez en souvenir de moi. Donc, chaque fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, et ceci jusqu'à son retour. C'est pourquoi quiconque mangerait le pain ou boirait de la coupe du Seigneur d'une manière indigne se rendrait coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine sérieusement lui-même et qu'alors il mange de ce pain et boive de cette coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner ce qu'est le corps se condamne lui-même en mangeant et en buvant ainsi. Ici, l'apôtre Paul nous rappelle l'importance de la scène au niveau communautaire. Et il nous avertit sur un des dangers qui guettent l'Église. C'est celui, dans le contexte de ce chapitre, des divisions entre croyants, de la négligence des frères et des sœurs, la négligence des pauvres dans le contexte. Ici, il ne s'agit pas d'un appel juste à une pseudo-unité religieuse dans un moment formalisé de la scène, mais c'est, je crois, le programme de Dieu pour son peuple. Alors que le monde qui nous entoure est en train de se polariser, se fracturer dans des positions qui ne se rejoignent plus, le peuple de Dieu est invité à un examen profond de ses motivations, de ce qu'il conduit, de ce qu'il dirige dans ses relations avec ses frères et sœurs, mais aussi avec la société, afin de refléter Christ et son sacrifice pour l'humanité. Je prie ce matin pour un temps de scène, que ce temps de scène soit l'occasion de laisser Dieu et sa parole nous scanner et nous pousser à être des artisans de paix, comme on l'a entendu, Saul, mon frère, de considérer l'autre, celui qui ne pense pas exactement pareil, qui est différent, non comme un ennemi, mais comme un frère. Alors que les plateaux vont circuler, je vais inviter les baptisés à vous approcher devant. Vous pouvez venir. Il y a l'équipe qui est là pour vous. C'est aussi l'occasion ce matin de vous accueillir et de dire: venez mes frères et sœurs, bienvenue dans la famille. Vous pouvez vous mettre juste devant. Alors ils ne sont pas tous là, il y en a qui sont déjà partis en vacances, mais on voulait que ce moment puisse être aussi solennel pour eux, de prendre la scène et qu'on puisse les considérer ce matin alors qu'on va prendre le pain et le vin. Regardez-les, faites-leur des sourires et dites-leur bienvenue. Est-ce qu'on peut leur dire bienvenue ce matin? Bienvenue dans la famille de Dieu. On va prendre la scène avec eux. Je vais demander à Anita si elle veut bien prier pour eux. L'équipe, vous pouvez leur donner la Sainte Cène en même temps. Et ensuite, on leur offrira la parole de Dieu. Parce que, au-delà d'une famille, on veut être une famille qui est attachée à celui qui en est le fondement, Jésus-Christ. On l'a entendu ce matin. Si tu veux entendre Dieu te parler, lis ta Bible. Et si tu veux entendre Dieu parler à voix haute, lis ta Bible à voix haute. Et tu entendras Dieu parler. Alors, je vais donner la place à Anita.
Nous vous accueillons, nos chers frères et sœurs, et nous sommes réjouis que vous soyez passés par les eaux du baptême et que vous ayez répondu à l'appel du Seigneur. Et nous nous réjouissons également de tous ceux qui sont dans cette salle et qui ont répondu en leur temps à l'appel de Dieu, qui aujourd'hui encore répondent à l'appel du Seigneur pour leur vie personnelle. Alors Seigneur, nous appelons ta bénédiction, toi qui rajoutes à l'Église les membres de l'Église. Nous appelons ta bénédiction sur ces nouveaux disciples, ceux qui se sont engagés dans le baptême d'eau. Et puis nous appelons ta bénédiction sur leurs frères et sœurs qui les accueillent, sur cette grande famille que nous constituons. Nous appelons ta bénédiction sur ces nouveaux disciples, Seigneur, afin que tu les enseignes et que tu nous permettes d'être auprès d'eux des Ananias, de pouvoir être de bons influenceurs, de pouvoir avoir le mot, le geste qu'il faut pour qu'ils puissent être encouragés au moment opportun. Et nous appelons ta bénédiction sur chacune de leurs vies, afin que chacun reçoive son appel spécifique, qu'ils n'aillent pas de droite ou de gauche, mais qu'ils restent chacun dans leur propre chemin. Nous appelons ta bénédiction sur leur âme, afin, Seigneur, qu'elle puisse se garder pure dans ces temps difficiles. Nous appelons ta bénédiction sur leur corps, afin que tu veilles sur leur santé. Nous appelons ta bénédiction sur leur vie d'études professionnelles, sentimentales, afin qu'en tout point, ils soient guidés par ton esprit et qu'ils profitent à fond de la vie que tu veux leur proposer. Nous appelons ta bénédiction et toute l'Église avec moi dit Amen.
Merci Anita, on va demander aux grands frères et aux grandes sœurs de pouvoir leur apporter la Bible. Merci à Nathalie et Yannick qui sont des disciples de Jésus affermis, qui vont être aussi des Ananias pour transmettre ce matin ce cadeau de la part de, de l'épi. Et puis je vais vous inviter, alors que la Sainte Seine continue de passer, à proclamer ce chant « Je te donne tout ».
Sur toi.